Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison, épisode 119, pour le samedi 27 août 2011, retour sur l'anomalie Petit Rochin. Aujourd'hui, je suis avec Pierre Maguin, qui est un spécialiste de la photo de Petit Rochin. Alors, on a déjà pas mal parlé d'ufologie sur le balado dans une optique sceptique, mais vu l'actualité récente, j'ai souhaité l'interviewer pour qu'il nous parle un peu lui-même de ses travaux sur le sujet et de comment il a, enfin, de ses impressions vis-à-vis des événements récents. Bonjour.
Bonjour.
Avant qu'on attaque la discussion autour de la photo de Petit Rochin, est-ce que vous pourriez vous présenter?
Eh bien, je suis professeur d'astrophysique à l'Université de Liège et je dirige un groupe qui est spécialisé particulièrement dans le traitement d'images. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles j'étais amené à m'intéresser au sujet dont vous venez de parler.
Mais historiquement, donc au moment de la vague belge, et puis bon, quand la photo de Petit Rochin est apparue, qu'est-ce qui vous a amené à ce moment-là à vraiment vous plonger sur le sujet?
J'ai vraiment pris connaissance du sujet lorsque la SOBEP a publié son premier ouvrage, Vague d'OVNI sur la Belgique, un dossier extraordinaire, tel qu'il le sous-titrait eux-mêmes. Alors, je l'ai lu et j'ai été particulièrement frappé au départ par la description qu'il donnait de la photo de Petit Rochin, du fait qu'il disait qu'ils avaient essayé de la reproduire par un trucage et qu'il n'y était pas arrivé. Et il concluait que si trucage il y avait eu lieu, ça nécessitait des moyens beaucoup plus sophistiqués que ce qu'ils avaient utilisé. Alors j'ai vraiment été sidéré par cette affirmation. Et j'ai eu l'impression, avec mon collègue Marc Remy, que en fait ça pouvait être produit par des moyens extrêmement simples. Et donc, nous nous sommes mis en tête d'essayer de reproduire le genre de photo à partir de bouts de ficelle et de carton.
Racontez-nous alors un peu vos tentatives de réalisation, d'imitation de la photo de Petit Rochin.
Donc, en fait, nous avions été particulièrement frappés par les lumières qui apparaissaient sur cette photo et le fait qu'on semblait avoir des traces qui ressemblait à du bouger, mais qui ne semblait pas correspondre à bouger d'ensemble, contrairement à ce que le soi-disant photographe déclarait, puisqu'il disait qu'il avait utilisé une pause de une à deux secondes et qu'il n'avait pas de trépied. Donc, il nous apparaissait que, comme il le disait lui-même, il avait dû bouger, mais ce qu'on voyait sur l'image ne correspondait pas à bouger d'ensemble, donc ne correspondait pas à ce qu'on aurait vu si l'appareil photo seul avait bougé. Donc, nous avons pris une boîte à chaussures en carton dans laquelle nous avons percé des trous. Nous avons éclairé par l'arrière. J'ai joué le rôle de l'extraterrestre et mon collègue a joué le rôle du photographe. Et nous sommes enfermés dans une cave de l'observatoire pour avoir un endroit sombre, enfin noir. Et nous avons commencé à essayer de reproduire l'image qu'on voyait. Alors comme à l'époque, il n'y avait pas encore d'appareil photo numérique, ben, ça nous a pris un peu de temps, parce que chaque fois que nous avions exposé un film, il fallait le faire développer, regarder ce que ça donnait, et puis refaire de nouveaux essais. Parce qu'il est beaucoup plus facile de produire un ovni que de reproduire un qui existe, parce que nous voulions faire quelque chose qui ressemblait à ce qui avait été fait. Donc pas simplement un ovni quelconque, nous voulions reproduire une image qui ressemblait à celle qui avait été faite. Et donc ça nous a pris en gros, avec des allers-retours au labo de photos, ben, à peu près 3 jours d'essai pour arriver à un résultat qui nous paraissait suffisamment proche. Nous n'avons jamais essayé de reproduire exactement cette photo, nous voulions simplement montrer qu'avec des trucages élémentaires, il était possible de la reproduire, contrairement à ce que la SOBEP s'affirmait.
Sur la question de la difficulté de reproduire une photo existante, Récemment, donc, quand Auguste Maison est allé parler à Patrick M, donc le témoin, le photographe, en fin d'interview, donc je crois que c'était sur RTL, il a dit je vais essayer de reproduire la photo que j'ai prise 20 ans après. Mais une des réactions qu'on avait un peu sur un forum sceptique, c'était de se dire bah, il a pris la photo de Petit Rochin il y a 20 ans, mais la probabilité les chances qu'il arrive à reproduire exactement de manière à satisfaire Auguste Maison une photo parfaitement identique sont finalement assez faibles, non? Enfin, qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, je trouve aussi. Et puis d'ailleurs, j'ai assisté à cette interview de Maison, telle qu'elle a été retransmise à la télévision, où Maison demandait au photographe, mais expliquez ceci, expliquez cela. Bon. Je crois que c'est complètement hors propos parce que il est un ouvrier d'usine, il a fait un gag, un canular, il n'est pas un spécialiste de l'optique. Lui demander de pouvoir expliquer telle ou telle chose qui apparaît sur la photo, moi ça me paraît aberrant. Quoi. On ne peut pas s'attendre parce qu'il a réalisé une photo qui peut s'expliquer tout ce qu'il y a sur la photo. Bon, il a essayé quelque chose, ça a bien donné. Il était content, et puis 20 ans après, réexpliquer tout, même sur le moment même. Je pense qu'il faut être un grand spécialiste de l'optique, connaître toutes les réflexions, tout ce qui peut se passer pour pouvoir expliquer tout ce qui apparaît sur la photo.
Oui, donc revenons en arrière sur la... Quelles étaient les raisons dont vous concluiez votre... dans votre article, Les ovnis, un sujet de recherche, donc, qui a été publié dans Physicalia Magazine, et puis aussi dans le texte qui a été mis dans Vague d'ovnis sur la Belgique numéro 2, vous concluez qu'il fallait être que vous aviez de bonnes raisons de penser que c'était un faux, cette photo, et qu'il fallait être extrêmement prudent à son égard. Quels étaient un peu les éléments principaux qui vous mettaient la puce à l'oreille?
Je pense que la grosse erreur qu'ont fait la plupart des gens à qui on a soumis la photographie pour l'analyser, c'est qu'ils ont pris le document et ils ont commencé à l'enregistrer, à le décomposer en différentes couleurs, à regarder tout ce qu'il y avait dessus, sans considérer le contexte. Et j'étais vraiment étonné que tous ces spécialistes ont essayé de voir si la photo pouvait être une photo réelle ou un faux, simplement en l'examinant, sans regarder dans quel contexte elle avait été prise. Or, tout était publié dans le livre de la Sobeps. Le témoignage du photographe et de son ami était reproduit, et on pouvait comparer ce qu'on voyait sur la pellicule avec le témoignage du photographe et celui de son ami. Et quand on faisait ce simple exercice, on voyait qu'il y avait un certain nombre de choses qui paraissaient bizarres, qui ne collaient pas. Par exemple, ce que je vous ai déjà mentionné, le fait que il disait avoir forcément bougé en prenant la photo, alors que ce qu'on voyait n'était pas compatible avec un bougé de l'appareil photographique. Mais il y avait un certain nombre d'autres difficultés. Donc, par exemple, pour résumer l'histoire, c'est l'ami, une certaine mademoiselle S, qui sort le chien. Au crépuscule, voit quelque chose dans le ciel, appelle le photographe, donc son copain, qui sort, il prend son appareil photo et il fait deux clichés, parce qu'il lui restait deux clichés sur son film au retour de vacances, d'après ce qu'il dit, il fait deux clichés, mais un des deux n'est pas satisfaisant, il le jette. Bon, ça c'est déjà un peu bizarre. Ensuite, les deux témoins se contredisent dans le sens que mademoiselle S dit que l'objet est parti d'un coup et le photographe dit qu'il est parti lentement ou l'inverse, je ne me souviens plus très bien. Ensuite, ils décrivent tous les deux l'objet comme étant un triangle avec des phares qui sont des points lumineux ronds. Or, quand on regarde la taille de l'objet sur la pellicule, connaissant la focale, la gamme de focale que pouvait donner son appareil photographique, on se rend compte qu'au minimum, chaque phare faisait la taille de la pleine lune. Donc, un demi-degré sur le ciel, au minimum, s'il avait mis son zoom à fond. Ce qui n'était pas ce qui ne correspondait pas à ce qu'il disait. Il disait qu'il avait zoomé à fond, puis qu'il avait un peu reculé. Donc, au strict minimum, c'était la taille de la pleine lune. Alors, je n'ai jamais vu, mais au grand jamais, un témoin décrire la pleine lune comme un point. Ça paraît absurde. La pleine lune, c'est un disque. Et quand on examine la photographie, on voit qu'il y a de la structure dans ces phares, différents points qui semblent bouger. Donc, il est totalement incohérent qu'il n'ait pas vu cette structure. Donc, cet ensemble de choses, plus le fait qu'il avait remisé la photo dans un tiroir, donc ça faisait quand même plusieurs mois qu'on parlait de l'OVNI en Belgique, que la Sobeps essayait de le photographier, qu'on n'avait jamais eu une seule photographie valable. Oui, il arrive, après quelques mois, à avoir la seule photographie valable de l'OVNI, puis il l'a remise dans un tiroir où elle reste pendant encore 4 mois jusqu'à ce qu'un photographe de presse en entende parler et vienne la sortir de l'oubli. Donc tout ça nous paraissait incohérent. Et donc, quand on amène une évidence extraordinaire, il faut des arguments solides. Or là, tout était pourri à la base, il y avait des choses qui semblaient ne pas tenir la route, et donc on pouvait que conclure, comme on l'avait fait de manière prudente, qu'on pouvait y mettre de fortes réserves quant à l'authenticité de ce cliché. Ça paraissait évident que, vu le nombre de choses qui n'étaient pas cohérentes entre les témoignages et ce qu'on voyait sur la pellicule, dans le comportement, tout ça paraissait vraiment ne pas tenir la route, et ça nous paraissait un faux assez évident, mais apparemment le message qu'on avait essayé de faire entendre n'a pas été aussi entendu que le message des croyants qui le présentaient comme une évidence très forte, parce que sur les deux livres de la Sobeps, c'est en couverture, c'est vraiment le fer de lance de la vague belge, quoi.
Oui, c'était justement un peu ma question suivante. C'était quelque chose qui m'a particulièrement frappé. Les médias, là, actuellement, la semaine dernière, puisqu'on enregistre ça juste après la révélation de Patrick M., où il disait, voilà, la photo a trompé tous les scientifiques jusqu'à la NASA. Enfin, bon, c'était un peu l'hyperbole journalistique. Mais en réalité, il y avait vous, il y avait Marc Allais, il y avait Wim van Utrecht, plus récemment Roger Paquet. Au cours des années, il y a des tas de sceptiques qui ont dit, mais non, cette photo est loin d'être aussi convaincante. Mais pourtant, les médias, ils ont pas l'air d'entendre ce message-là. Enfin, bon, évidemment, c'est le gros problème des sceptiques, mais est-ce que vous voulez un peu élaborer sur le sujet? À l'époque, en 93, comme ça, quel écho vous avez l'impression que vous aviez dans les médias? Est-ce qu'on vous écoutait un petit peu? Pas du tout?
Disons que quand j'étais invité à 3 ou 4 émissions de télévision, essentiellement, je pense que dans la plupart des cas, j'ai pu m'exprimer, que ça passait, mais bon, c'est resté confiné à ces 3 ou 4 émissions. Ça n'a pas vraiment été relayé. Je pense qu'un des problèmes, c'est que les médias, ils essayent de faire de l'audimat, ils essayent de vendre, si c'est la presse écrite, et on vend mieux avec de l'extraordinaire que lorsque on est comme la plupart des sceptiques. Moi, je ne veux pas non plus me ranger systématiquement dans les sceptiques à tout près. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est analyser de manière objective, tout en n'ayant pas d'idées préconçues. Alors, donc, dans ce cas-ci, ça a provoqué mon scepticisme, parce que manifestement, en ouvrant un peu les yeux et les oreilles, il y avait des choses qui ne collaient pas. Bon, donc, dans ce rôle-là, on est un peu le briseur de rêves. Donc c'est un peu plus difficile à faire passer vis-à-vis du public. Quand on se concentre, par exemple, sur un phénomène comme les ovnis, c'est beaucoup plus excitant de se dire qu'on va pouvoir avoir des contacts avec des civilisations extraterrestres, plutôt que de venir dire « bon, tout ça ne sont que des mauvaises interprétations de témoignages nocturnes, des canulars, des choses pareilles ». Bon, ça ne me fait pas rêver. Alors, donc la presse a beaucoup moins tendance à relayer ce genre d'informations. Alors, lorsqu'on présente un témoignage extraordinaire, ben, on va lui faire écho. Si on vient à l'expliquer par des choses banales, ben, c'est beaucoup plus difficile de faire passer cette information, parce que ça n'intéresse pas vraiment. Ça ne fait pas vendre, ça n'amène pas le public. Donc, comme la plupart des médias sont financés par la publicité, il leur faut des lecteurs ou des auditeurs. Ben, c'est tout à fait humain d'essayer de transmettre les informations les plus spectaculaires, celles qui vont attirer le plus. Mais je veux dire que, malgré cela, je ne peux pas me plaindre qu'on ne m'ait pas donné la parole. Mais, je pense que il y a une espèce de machine de guerre, ici dans ce cas c'était la machine de guerre de la Sobetz qui a vraiment fonctionné à plein. Ils ont eu la chance d'avoir la collaboration de la gendarmerie, de la force aérienne, de certains politiques, et d'avoir vraiment des entrées dans les médias, et ce n'est pas très facile de faire entendre la voix discordante quand on a comme ça une telle concordance d'informations. Et en plus, comme dans la Sobetz, il y a des scientifiques qui sont des collaborateurs, comme le August Mesen, Léon Bronig, qui sont des vrais scientifiques ou d'anciens scientifiques. Dans le cas de Mesen, il est retraité depuis un certain temps. Donc ça, pour le grand public ne se rend pas nécessairement compte que dans la science, il y a des débats, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec les autres. Et donc, s'il y a la caution de scientifiques universitaires, ça paraît... la cause est entendue. C'est comme ça. Des spécialistes ont dit cela, donc... on accepte, hein, c'est un peu... On ne peut pas demander à chaque personne d'aller refaire l'analyse de toute l'information qu'on lui soumet.
Au fur et à mesure des années, je ne sais pas en fait quels ont été vos contacts avec la Sobeb, puisque par exemple dans son chapitre de Vague d'OVNI sur la Belgique 2, Patrick Ferrin cite, donc c'est le chapitre qui consacre à la photo de Petit Rechin, il cite votre texte qui prend une page du livre, qui est un gros livre. Quelles ont été vos relations avec la Sobeb? Aussi, vous les avez croisés au minimum sur les plateaux de télé, encore récemment Mason à la RTB, au RTL. Je suppose que même récemment, comment ça s'est passé quand vous étiez sur le plateau avec August Mesen, ça doit être relativement tendu, non?
Au départ, en fait, les relations n'étaient pas mauvaises parce que dès la publication du livre de la Sobetz, il y avait eu un manifeste signé par une dizaine de scientifiques pour dire que, suite à la conférence de presse qui avait accompagné la publication de leur livre, mettre tout ça en doute. Alors, la Sobetz a eu beau jeu de dire que les scientifiques critiquaient leur ouvrage sans l'avoir lu. Bon, moi, je n'ai pas fait partie de ces 10-là. J'ai pris le temps de lire leur livre à fond, de le décortiquer, d'analyser les passages qui m'intéressaient le plus, comme certains témoignages, la photo, puisque c'est dans ma spécialité, mais aussi les éco-radars. Et je les ai contactés pour avoir un certain nombre d'informations. Donc, au départ, on avait des relations relativement cordiales. Évidemment, quand j'ai soumis mes conclusions, ça leur a moins plu. Puis quand j'ai commencé à les rencontrer sur les plateaux de TV, ça leur a encore moins plu parce que ça avait un peu pris l'habitude d'avoir en face d'eux des sceptiques qui arrivaient avec des généralités valables, mais contre qui ils avaient beau jeu de dire « mais vous ne connaissez pas le dossier, nous avons fait des enquêtes, et donc vous parlez sans savoir ». Et en quelque sorte, ils avaient raison. Lorsqu'ils se sont trouvés face à moi, vu que j'avais pris beaucoup de temps sur mes loisirs, puisque je ne suis pas payé pour ça, j'avais pris beaucoup de temps pour analyser des témoignages, pour analyser la photo, pour analyser ce qu'on disait sur les éco-radars, j'arrivais avec des avis circonstanciés qui étaient basés sur des faits précis. Et dans beaucoup de cas, je connaissais mieux les faits qu'eux-mêmes. parce que bon, ils ont pondu deux briques énormes. Et moi, j'étais dans toute cette masse de surtout de témoignages, ben, il y en a toute une série qui sont manifestement farfelus. Moi, je me suis concentré sur quelques informations clés et j'arrivais avec des critiques qui étaient pointues sur des points précis. Donc, ils ne pouvaient plus rétorquer à celui qui était en face d'eux, qui ne connaissait pas le sujet. Et donc, on a commencé à avoir l'habitude, on avait un peu l'habitude auparavant que le scientifique se faisait un peu tailler en pièces parce qu'il ne connaissait pas tous les détails du sujet. Et bon, ça a changé et ça leur a déplu. Ils ont critiqué à de nombreuses reprises, comme ça a encore été le cas dans ma dernière rencontre avec Auguste Mélenchon. Après, il a critiqué parce qu'on n'avait pas, soi-disant, on m'avait laissé la parole beaucoup plus que lui. Ce qui a été répondu par les organisateurs de l'émission, que si on analysait l'émission, ben, ce ne serait pas du tout le cas. Mais bon, lui ne voulait pas croire qu'il avait parlé autant que moi. En fait, il a parlé plus. Et bon, je crois que quand il ne monopolise pas l'attention, ça les dérange quand il y a vraiment un débat. J'ai eu l'occasion de parler avec Auguste Mélenchon lorsque nous sommes rencontrés une fois à l'Observatoire. Après la conférence d'un de mes collègues, et j'avais été frappé par son analyse des éco-radars. Il présentait une vingtaine ou une trentaine d'éco-radars enregistrés par un des F-16 qu'on avait envoyé à la chasse à l'OVNI une nuit. Et j'avais remarqué que dans ces éco-radars qu'il analysait en long et en large, il y en avait trois ou quatre qui paraissaient vraiment très bizarres, dont le plus long de tous les échos, qui en fait restait immobile par rapport à l'avion, alors que l'avion effectuait des virages. Donc si vous faites un virage, que vous avez quelque chose au loin, ben, ça ne reste pas immobile par rapport à vous. Hein? Donc je me disais, il y a quelque chose qui est vraiment bizarre, c'est soit un mauvais fonctionnement du radar, soit il a les échos de l'avion qui est devant lui et qu'il suit, ou quelque chose dans ce style-là. Et donc, je discute avec lui, je parle des éco-radars et je l'amène progressivement à ces échos-là. Et je lui demande qu'il essaye de m'expliquer ce qui se passe avec ces échos qui restent immobiles par rapport à l'avion qui effectue des virages. Alors, quand nous en arrivons là, il me dit, mais vous savez, la méthode scientifique, il commence à sortir des généralités sur la méthode scientifique, etc. Bon, je reprends toute ma patience, je le ramène progressivement à la discussion vers ces éco-radars. J'en arrive à cet écho très long qui reste immobile par rapport à l'avion. Je lui dis, mais est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Mais vous savez, me dit-il, la méthode scientifique, et puis il repart sur les généralités. Nous avons fait trois fois le tour, et puis j'ai abandonné. Parce que chaque fois qu'il était devant le cas concret qu'il fallait expliquer, c'est comme si le disque ancien sautait et repartait au départ. Et donc, il était impossible d'en arriver à une vraie discussion contradictoire sur un cas précis. Parce que quand il était en difficulté, il repart avec des généralités. Alors, moi, je veux bien qu'on ait un discours qui fasse très bien devant l'auditeur, celui qui n'est pas spécialement au fait de la méthode scientifique. Mais entre scientifiques, la moindre des choses, ce serait au moins de répondre aux questions et aux arguments. Donc, c'est un exemple qui montre pourquoi j'étais déçu des discussions, parce que je n'ai pas ressenti qu'on pouvait avoir une discussion franche par rapport à certains faits précis.
La semaine dernière, Patrick M. a finalement, 20 ans après, confessé avoir réalisé un faux. Je suppose que vous n'avez pas été très surpris, ou en tout cas peut-être surpris qu'il ait finalement confessé après tout ce temps. Mais comment vous avez vécu tout ça, le battage médiatique autour de cette révélation et vos impressions par rapport à ce qui s'est dit dans les médias, etc.?
Bon, premièrement, j'aurais bien aimé le rencontrer. Mais vu qu'on gardait son identité secrète, parce qu'il avait demandé à rester anonyme, seuls les gens de la Sobeb et autour pouvaient le rencontrer. Donc lui n'a vu que des croyants. Comme pour moi, c'était relativement évident qu'il s'agissait d'un canular, je me demandais quand va-t-il se décider à le révéler? Et quand j'ai appris qu'il avait révélé, ben je me suis dit, ah bon, enfin, il se décide à parler. Et donc, alors j'ai été prévenu par un de mes fils qui était passé à la télé. Dès que je suis rentré chez moi, j'ai regardé ce reportage sur Internet. Donc j'étais vraiment content de le voir enfin révéler ça. Je trouve que ça collait vraiment avec ce que je soupçonnais. Et je me dis enfin. Et alors je n'étais qu'à moitié surpris de voir que toute série de personnes qui avaient cru à l'authenticité ne croyaient pas en son démenti. C'est quelque chose. Je m'y attendais. On a vu ça avec des crop circles. Quand les gens dénonçaient leur canular, ben, y en a qui disaient non, c'est pas possible de faire ça. Ici, on a eu un peu le même genre de réaction. Bon, je dirais, encore en quelque sorte, c'est humain. Quelqu'un comme Mécène qui a passé des années à analyser la photo pour essayer de découvrir le mode de propulsion de l'OVNI, à partir du moment où on lui dit c'est juste du polystyrène, de la frigolite avec des ampoules, de l'orbe de poche, évidemment, quand on a passé des années à analyser ça, humainement, ce n'est pas facile de reconnaître que ça peut être un bête canular. Ils avaient analysé à l'École royale militaire et d'autres, ils avaient dit avoir analysé la photo entre guillemets authentique et les tentatives de reproduction de cette photo par des moyens, donc celui de Wim van Utrecht, etc., le nôtre. Et disait qu'on voyait tout de suite que les nôtres étaient des faux, alors que celui de Petit Rocher, il y avait des choses que les faux ne pouvaient pas reproduire. Alors, premièrement, je dirais qu'ils n'ont jamais analysé la nôtre, parce qu'ils ne nous l'ont jamais demandé. Donc, ils prétendent l'avoir analysé, mais ce n'est pas vrai, parce qu'ils n'ont jamais eu l'original. S'ils ont analysé des choses, c'est ce qui était reproduit dans des magazines. Il donnait un certain nombre de choses, par exemple disant que quand on décomposait dans les différentes couleurs, bleu, vert, rouge, bien la structure était de plus en plus évidente, de plus en plus étendue quand on allait vers le rouge, alors que c'était pas le cas des reproductions qu'ils avaient soi-disant analysées. Ils ont probablement analysé celle de Wim van Utrecht. Pour moi, si vous avez des lampes à incandescente, en fait, c'est de la lumière qui est plutôt rouge. Ce sont des sources relativement froides par rapport à, c'est 1500 degrés, alors que le soleil, par exemple, c'est pratiquement 6000. Donc, c'est rouge, en fait. Donc, ça impressionne plus la partie rouge de la pellicule que la partie bleue. C'est tout à fait normal par rapport à des halogènes qui seraient beaucoup plus bleus, par exemple, ou des tubes néons qui auraient des couleurs différentes. Donc, ça me paraissait, moi, tout à fait normal. Et tous les arguments qu'on présente pour dire, mais non, ça ne pouvait pas. Bon, ça ne peut pas s'expliquer par un bricolage, ne tenait pas la route. Donc, je n'ai pas du tout été surpris par les réactions. C'est-à-dire on commence à avoir l'habitude. Moi, en fait, je suis déçu. Pas par ce genre de réaction, parce que, je suis astrophysicien, j'ai des programmes de recherche où on recherche des planètes qui tournent autour d'autres étoiles. Le but de ces programmes, c'est à long terme, c'est de pouvoir voir s'il pourrait y avoir de la vie ailleurs que sur Terre, de l'intelligence. Donc nous cherchons. Et finalement, le fait que s'il y a de l'intelligence dans l'univers, ils nous rendent visite, ça c'est un autre problème. Mais nous sommes attentifs à cela. Les astronomes regardent le ciel tous les jours, toutes les nuits plutôt, on ne voit jamais rien. Le fait que quand on analyse des observations qui ont été faites par des témoins, le fait que chaque fois qu'on analyse sérieusement, ça s'avère ne pas tenir la route, c'est décevant en quelque sorte, parce que ce serait beaucoup plus excitant s'il y avait réellement quelque chose à découvrir, autre chose que des illusions, des mauvaises interprétations, des canulars. C'est un peu décevant de tout le temps avoir ce genre de résultat. Donc, moi, je dis, en tant que scientifique et astrophysicien, je ne demanderais pas mieux qu'il y ait de la vérité là-dessous. Mais il se fait que, quand on regarde les évidences qui ont été accumulées, on a zéro évidence solide en faveur des extraterrestres qui nous enverraient des messages, qui nous rendraient visite. Il n'y a rien. Donc, voilà, nous sommes forcés de conclure que dans tout ce qu'on a jusqu'à présent, il n'y a rien qui tient à la route. Et en quelque sorte, nous sommes déçus de cela. Voilà.
Juste pour prendre un peu de revenir sur la vague belge proprement parler, parce que dans votre article, les ovnis, un sujet de recherche, vous traitez de la vague belge de manière plus globale, pas seulement de la photo de petits rochers, mais où en sont vos réflexions sur le sujet? Vous pensez que toutes les observations s'expliquaient par des erreurs d'interprétation, ou vous pensez qu'il y a eu peut-être des essais militaires, ou où en sont vos réflexions sur la vague belge de manière plus globale?
Mais je pense que plusieurs personnes ont essayé d'expliquer la vague belge à partir d'un objet ou un phénomène, etc. Je pense que comme beaucoup de vagues, en particulier celle-ci, parce que bon, elle est proche, c'est une que j'ai étudiée, je pense qu'on ne peut pas donner une explication. Je pense qu'il y a un ensemble de choses qui se sont ajoutées. Ça a démarré par des observations de gendarmes. Je me souviens d'avoir entendu à la radio présenter cette observation, le fait que ce soit des gendarmes avait, en quelque sorte, pour les journalistes, donné un gage d'authenticité à cette observation. Moi, je me suis dit, mais en quoi est-ce que des gendarmes sont plus qualifiés que le commun des mortels pour faire des observations du ciel? C'est comme si moi, astronome, j'étais qualifié pour dresser des procès-verbaux. Moi, je fais pas le métier des gendarmes, je vois pas pourquoi eux sont qualifiés pour faire le mien. En plus, lorsqu'ils avaient contacté leur centre de dispatching, comme on disait à l'époque, ben, la première réaction des personnes, c'était de dire, ben, ils ont encore bu. Donc, ça paraissait déjà pas très sérieux. Ça a été enquêté par Mécène, qui n'était pas un enquêteur habituel de la SOBEPS, mais comme c'était dans sa région, c'est lui qui l'a fait. Soi-disant, les gendarmes observaient un objet extraordinaire qui était immobile, tout près de la route, qui avait des lumières aussi fortes qu'un stade de football. Et dans le même temps, il y avait des voitures qui passaient à côté et qui ne s'arrêtaient pas, qui ne voyaient rien d'extraordinaire. Donc tout ça paraissait déjà dès le départ bizarre. Enfin, un peu loufoque. J'avais un collègue qui, à l'époque, observait une comète depuis les hauteurs du Sartilement, qui avait donc vu sur les avions qui décollaient de l'aéroport de Bierzé, qui voyait l'AWACS, le fameux avion radar de l'OTAN, décoller de Bierzé, s'en aller vers l'est, revenir vers l'aéroport, faire des va-et-vient. Et le lendemain, à la radio, on apprenait qu'on avait observé l'OVNI à l'est. Personne n'avait vu l'AWACS, mais on avait vu l'OVNI. Alors, assez vite, un autre gendarme a dit, ben, un de ses collègues l'a appelé, viens voir, il y a l'OVNI dans le ciel. Et le gendarme lui dit, mais cet OVNI, c'est l'AWACS. Et tout de suite, il a communiqué son observation, il dit, mais c'est l'AWACS qu'on voit. Et alors, la SOBEPS a rejeté son interprétation en disant que c'était impossible que ça soit l'AWACS parce que l'OVNI était silencieux, pouvait faire du surplace, etc. Et ils en ont conclu que, je cite, la mythomanie n'est toujours pas là où on croirait qu'elle se trouve. Donc ils rejetaient de revers de la main le témoignage de ce gendarme. J'ai moi-même vu l'OVNI. J'étais en train de... C'était un peu après la vague belge, parce que le livre de la SOBEPS avait été publié. J'étais en train de lire le livre de la SOBEPS. À cette époque, mes enfants étaient tout petits. J'arrête de lire pour aller les rechercher à la chez la gardienne. Et en voiture, c'était le crépuscule. Je vois les lumières, l'OVNI exactement tel que je venais de le lire dans le livre. Bon, je me dis, ça y est, tu crois ces choses, tu commences à avoir des illusions. Donc, je baisse ma vitre et je regarde plus attentivement. Et comme c'était le crépuscule, ben, en laissant ma vision s'accoutumer, je commence à voir le pourtour de l'appareil, ce qu'on ne peut pas voir dans la nuit. Et c'était la WAX, effectivement, avec exactement les trois lampes blanches, avec la lampe rouge au milieu qui clignote, exactement comme la description. Et quand on lit certains témoignages au livre de la Sauvette, il y en a certains qui disent qu'ils ont l'impression d'avoir une coupole au-dessus. Donc le radar forme une coupole. Donc, pour moi, il ne fait aucun doute qu'une partie des observations, c'était la WACS. Je crois qu'il y a suffisamment d'éléments pour dire qu'une partie des observations, c'était la WACS. Le fait qu'il n'y a pas de bruit, dans certains cas, lorsqu'on a des inversions de température, comme c'était le cas lors de la vague belge, il y a des couches d'air de différentes densités qui peuvent dévier les ondes sonores et faire qu'un avion qui ne vole pas très rapidement, qui vole lentement comme la WACS, on entend très peu son bruit. S'il y a un peu de bruit de fond de voiture qui passe, on peut ne pas l'entendre du tout. L'immobilité, j'ai eu l'occasion d'observer dans certains cas, lorsqu'il venait vers moi, pendant de longues minutes, on a l'impression qu'il ne bouge pas, parce qu'il ne vole pas vite. S'il vient vers vous, vous ne le voyez pas vraiment bouger. Donc, en prenant les témoignages, en imaginant qu'ils ont pu être un peu exagérés, on peut très bien avoir l'impression que ça ne bouge pas. On a déjà eu des cas où il est clair que c'était un avion et que le témoin a dit que ça ne bougeait pas. Donc le bruit, l'absence de bruit, moi ça ne m'étonne pas non plus. Donc, je pense qu'il y a un certain nombre d'observations et certainement les observations qui l'ont déclenché. Je pense qu'on peut les expliquer par la WACS. Mais à partir du moment où on commence à beaucoup parler dans les médias de l'OVNI, vous avez un tas de personnes qui n'ont pas l'habitude de regarder le ciel, qui lèvent les yeux, qui regardent et qui voient des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'habitude de regarder. Et alors on voit beaucoup de choses. On prend Vénus pour un OVNI, on a eu des cas, on a des faisceaux laser par les disjockeys en plein air qui se reflètent sur les nuages, qui étonnaient à l'époque. On a un tas de choses, on a peut-être un prototype secret des militaires, peut-être. On a toute une série de choses qu'on voit et on agglomère tout ça. Et alors, ceux qui veulent croire, ils prennent une partie d'un témoignage, ils disent, voilà, là on disait que c'était mobile, là on disait que c'était silencieux, là on dit ceci, là on dit cela. Ils regroupent tout ça comme étant les propriétés de l'OVNI, et ils concluent qu'on ne peut pas l'expliquer à partir d'une chose terrestre. Mais moi, je pense que c'est parce qu'on agglomère toute une série d'observations disparates qu'on fait coller ensemble. Et pour finir, on arrive à quelque chose qui ne peut pas s'expliquer par quelque chose de connu. Mais j'ai eu l'occasion aussi, lorsque je me suis penché là-dessus, de lire des livres, des études faites sur la fiabilité de témoignages dans le domaine judiciaire. Par exemple, on étudie beaucoup dans le domaine judiciaire la fiabilité des témoignages. Quand je vois avec quelle prudence les enquêteurs judiciaires prennent les témoignages, et quand je vois comment les enquêteurs d'OVNI prennent les témoignages, il y a un monde de différence. Si on prenait les témoignages avec les mêmes prudences, dans le cas des ovnis qu'on le fait avec ce qu'on fait dans les enquêtes judiciaires, on aurait beaucoup moins d'observations spectaculaires qui seraient mises en avant. Parce que les gens qui connaissent la fiabilité des témoignages savent bien qu'on ne peut pas prendre les choses au pied de la lettre. Quand on est devant des observations qu'on n'a pas l'habitude, on a toujours la tendance à les interpréter avec nos stéréotypes. On les interprète à partir des idées préconçues. Et à partir du moment où on présente un stéréotype d'OVNI, c'était l'OVNI triangulaire avec ses trois lumières, etc., les gens qui voient des choses vont avoir tendance à l'interpréter en référence à ce stéréotype. C'est quelque chose qui est connu. Dans le domaine des enquêteurs, c'est quelque chose qui n'est pas du tout pris en compte par les amateurs qui font les enquêtes pour les ovnis, en particulier sur la vague belge.
Pour terminer cet entretien, est-ce que vous attendez à ce que Auguste Meyssen trouve toutes sortes de raisons pour ne... Enfin, il l'a déjà commencé, mais je veux dire, est-ce que vous pensez qu'il va s'obstiner à essayer de défendre le fait que la photo est une photo authentique d'OVNI et que le témoin l'aurait pris à l'insu de son plein gré ou quelque chose dans le genre? Vous pensez qu'il va publier des textes allant dans ce sens-là?
Bon, c'est difficile pour moi de répondre à sa place. Sa première réaction, ça a été un peu dans ce sens-là. quand je l'ai rencontré à RTL, c'était plutôt de répondre, ben, ça n'a pas d'importance finalement que ce soit un faux ou pas, ce qui est extrêmement surprenant pour moi, parce que quand il croyait que c'était un vrai, ça avait beaucoup d'importance, quand il croyait que c'était authentique, à tel point qu'il l'a étudié pendant des années pour, comme je vous le disais au début, pour essayer de comprendre le mode de propulsion de l'OVNI. Il n'était pas le seul, d'ailleurs, à dire qu'on pouvait analyser le mode de propulsion de l'OVNI à partir de la photo. Et maintenant, il arrivait avec en disant, ben non, finalement, ce n'est pas important que ce soit vrai ou un faux. Ce qui importe, c'est de comprendre comment ça a été fait. Donc, je pense qu'il est plein de ressources, mais bon, ce n'est pas la première fois, très très loin de là, que ce qu'il décrit comme étant d'origine extraterrestre ou totalement extraordinaire s'avère finalement être quelque chose de bien terrestre. Et ça est arrivé avec des radars, c'est arrivé avec des signaux sonores, c'est arrivé maintenant avec la photo. Il a une grande faculté, lui et d'autres, de s'auto-illusionner. Je pense que le problème en science, le problème, c'est d'essayer de découvrir quelle est la vérité. À partir du moment où vous avez certains scientifiques qui essayent de prouver que leur interprétation est la vraie, et ils peuvent vous dire le contraire, moi je ne le crois pas, parce que je suis maintenant convaincu qu'il y a des gens qui croient et qui veulent prouver que ce qu'ils croient est vrai. Donc il y a des gens qui croient que nous sommes visités par des extraterrestres, ils cherchent dans les observations des preuves à l'appui de leurs idées préconçues. Ce n'est pas comme ça qu'on doit faire de la science. On doit essayer, c'est difficile parce que tout être humain a des idées préconçues, mais on doit essayer de les évacuer au maximum pour être le plus objectif possible. Et donc chaque observation, on doit essayer de l'analyser avec un esprit ouvert et critique. Il faut être ouvert à des hypothèses extraordinaires, mais il faut avoir l'esprit critique. Et lorsque ça peut s'expliquer de manière banale, on ne va pas retenir l'hypothèse extraordinaire lorsque ça peut s'expliquer de manière banale. C'est le rasoir d'Occam, on va prendre l'explication la plus simple, celle qui colle avec ce que nous connaissons déjà. Lorsque nous aurons une observation qu'on ne peut absolument pas expliquer avec ce que nous savons déjà, ben là, on va être à la veille de découvrir quelque chose d'important, si ça arrive. Donc, ce qu'il faut, c'est toujours garder l'esprit ouvert, ouvert à toute nouvelle observation extraordinaire, mais l'esprit critique, et ne pas se laisser abuser, et surtout ne pas essayer de prouver que notre idée préconçue est la bonne. Il faut essayer d'éviter les idées préconçues. Et, ils diront probablement que j'ai une idée préconçue, que mon idée préconçue, c'est que toutes les observations d'OVNI sont des faux, des illusions, etc. Ce n'est pas une idée préconçue, en fait. C'est quelque chose qui vient de mon expérience jusqu'à présent, toutes celles que j'ai examinées, parce que ça s'avère ne pas être extraordinaire. Et je suis déçu, mais je l'attends, l'observation extraordinaire. Mais je ne veux pas la croire sur parole. Je crois que c'est un peu la différence entre eux et nous. C'est que, moi, je n'essaie pas de prouver que j'ai raison. J'examine les choses et puis, si je suis déçu et qu'il n'y a rien, ben, je le dis. Voilà, le jour où je trouverai qu'il y a quelque chose qui est un indice, qu'il y a un phénomène extraordinaire encore inconnu, puisque notre science est loin de pouvoir tout expliquer, il y a encore des tas de choses qu'on doit expliquer. Mais j'attends de voir que les observations qui demandent une explication extraordinaire. Bon, je les cherche, je les attends, et je serai bien content le jour où elles arrivent. Ne vous en faites pas, le jour où ça arrivera, je crois que la majorité de la communauté scientifique se jettera dessus et essaiera de l'expliquer.
Très bien, ce sera notre mot de la fin. En tout cas, merci d'avoir répondu à mes questions.
Merci à vous.
Like a mote of dust in the morning sky. Plugin truths. like a mood of dust in the morning sky. Hooligan truths. From the Big Bang to black holes. From dark matter to a possible Big Crunch. We float like a mood of dust in the morning sky. Hooligan truths. Our image of the universe today is full of strange sounding ideas. We float like a mote of dust in the morning sky. Hooligan truths. We move one day. Venture to the stars. A still more glorious dawn awaits, not a sunrise, but a galaxy rise. A morning filled with 400 billion suns. The rising of the Milky Way. The cosmos is full beyond measure. We float like a mote of dust in the morning sky. Hooligan truths. Like a mood of dust in the morning sky. Hooligan truths.
Dream does much more than just recollect. It intercompares, it synthesizes, it analyzes, it generates abstractions.
It's the simplest thought, like the concept of the number one, has an elaborate logical underpinning. The brain has its own language for testing the structure and consistency of the world.
Like a mood of dust in the morning sky.
Hooligan truths.